Eh bien, Jean-Patrick Bouvard et Mathieu Lourmas, bonjour.
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 Merci de m'accueillir dans un bâtiment que je découvre à l'instant et qui donne un nouveau sens culturel sur la ville de Saint-Jean-en-Royan. Et une histoire pas banale, puisqu'il s'agit d'une réhabilitation du textile à la culture. Et c'est effectivement l'Art Solite qui vient d'ouvrir ses portes au public très récemment. Nous allons découvrir en votre compagnie, mais juste auparavant, avant de sonder ce bâtiment patrimonial, une vue d'ensemble de ce côté multifonctionnel que propose de manière assez innovante ce lieu à Saint-Jean-en-Royan.
Merci beaucoup de venir nous faire un petit coucou et de pouvoir nous permettre de faire découvrir le lieu qui est vraiment un lieu culturel, familial, à destination de tous, composé de 3 salles d'exposition, d'une boutique art et décoration, d'un bar, d'un restaurant, d'une résidence d'artistes, vraiment l'idée, et puis d'un grand parc qui environne l'ensemble, qui forme un peu un écrin de tout ça. Et l'idée, c'est vraiment un lieu où on va pouvoir rencontrer, un lieu de rencontre avec les arts dits classiques, modernes, contemporains, et ainsi de suite, et les cultures dites populaires, qu'on peut trouver de partout, des bandes dessinées, des séries télévisées, de la musique pop, des jeux vidéo et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment un lieu destiné à tous.
Un lieu qui a vocation, déjà par effectivement son architecture, à être ouvert, hein, qu'il s'agisse des arts, des publics et très physiquement ouvert. Un petit mot effectivement du projet de cette réhabilitation d'une friche industrielle dans le bas de Saint-Jean-en-Royan qui commençait à tomber en ruine et qui a été retraduit par un beau bâtiment, une belle architecture, petit historique. Mathieu ?
En quelques mots, on est sur un lieu qui historiquement est déjà en activité depuis plusieurs siècles. Il y a eu beaucoup d'activités ici, il y a eu de la soierie évidemment, et avant ça il y avait des foulons à draps, il y a eu de la pâte à papier. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et puis, depuis la fin du 19e, le lieu est connu pour le tissage, avec une usine qui a été construite en 1886. Donc, ça remonte quand même à plus de 120 ans. Le bâtiment en lui-même n'était plus en activité depuis la fin des années 80-90. L'activité textile avait été transférée à un autre endroit, à Saint-Jean-en-Royan. Et le bâtiment a un petit peu vivoté jusqu'à ce qu'il arrive vraiment effectivement à être dans un assez mauvais état. C'est à ce moment-là qu'il a été repris et qui a germé cette idée d'en faire un lieu culturel. On n'avait plus grand-chose du patrimoine industriel d'origine, puisque tout avait été transféré, mais on a essayé au maximum de conserver tout ce qu'on a pu avant de lancer les travaux. Et derrière, avec le cabinet d'architectes avec lequel on a travaillé, on a dès le départ souhaité conserver la forme vraiment typique de cette toiture qu'on dit à redan, ou qu'on dit aussi en shed, quand on le prononce à l'anglais, c'est-à-dire avec une sorte de toit en dents de scie. Et c'est vrai que ça amène cette lumière qu'on peut observer, puisqu'on a ce qu'on appelle des ouvrants, c'est-à-dire des fenêtres, sur toute la partie nord, et donc on a cette lumière naturelle qui baigne à la fois la boutique, le bar, le restaurant, mais aussi notre grande salle d'exposition dans la partie nord du bâtiment. Et c'est vraiment idéal justement pour amener nos visiteurs dans les meilleures conditions possibles pour découvrir les propositions qu'on leur fait. Le chantier lui-même, il a duré plus de 3 ans et on s'est beaucoup appuyé sur des entreprises locales et un savoir-faire local dès qu'on avait des gens qui étaient en capacité de le faire. Et c'est vrai que ça a été un long labeur au quotidien avec des réunions toutes les semaines, et passer de vieilles pierres du 19e siècle à un bâtiment qui a su conserver une âme un petit peu industrielle. Vous découvrirez ce qu'on appelle des ferrailles un peu à la Eiffel à l'intérieur du site. Ça a été ça aussi une volonté très affirmée qu'on a travaillé avec les architectes, de conserver cette dimension, ce caractère industriel au site. En le réchauffant avec quand même aussi du bois, des matériaux plus naturels. Ben voilà, on a essayé d'en faire vraiment un écrin qu'on espère un petit peu extraordinaire, un petit peu unique, au moins au niveau local, et qui plaira, on l'espère, à tous.
Une dimension très ouverte aussi à ce lieu, hein. C'est peut-être à l'image de l'usine textile auparavant, d'avoir une vision très générale du lieu. C'est aussi comme ça que se combine dans la salle principale boutique, accueil, restaurant, bar, finalement tout se tient d'un point de vue architecture.
Oui, c'est vrai que ce qu'on a souhaité, c'est d'avoir un plateau très ouvert, avec un minimum de cloisonnement. Donc on a vraiment un vrai bar dans toute sa plénitude et toute sa grandeur et toute sa proposition, et un vrai restaurant. Dans le bar, on a une carte qui est assez large et éclectique, qui à la fois s'est attachée à chercher des petites pépites locales, comme le whisky local, mais aussi les vodka, gin du Vercors, ou des alcools venant de, à consommer toujours avec modération bien entendu, mais qui viennent d'Ardèche et ainsi de suite, et avec des propositions qui sont plus classiques des bars qu'on reconnaît et qu'on trouve dans tous les bars qui se respectent, quoi. Donc on a une vue très large, une sélection très large, et notamment sur des rhums, des whiskies, sur des cocktails, puisqu'on a une barmaid, Angélique, qui a même créé des cocktails pour l'Arsolide, pour l'occasion, et qui les fait avec plaisir. Cocktails avec ou sans alcool, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un bar qui va gagner en puissance et en plénitude, notamment, comme disait Mathieu, avec une programmation, mais aussi avec une carte qui va s'étoffer du côté du snacking, salé et sucré, qui est encore balbutiante, hein, on va se mentir actuellement, mais qui va prendre un peu son rythme de croisière avec l'été qui va approcher et qui va faire des propositions. Et notamment, là, pour l'instant, nous avons pas mal de propositions autour de coupes glacées avec des glaces du Vercors. Okay. Sur le restaurant, eh bien, on a deux cartes différentes. Une carte plus carte du jour, menu du jour, large, du mercredi midi au samedi midi. Et puis sur la carte bistronomique, le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi, où on va changer de carte ce week-end, puisqu'on rentre dans la saison estivale. Donc on reste, le chef s'attache à avoir une cuisine de saison, avec des produits frais, des produits de qualité, des produits qu'il cuisine lui-même. Il s'interdit le maximum de congélation, sauf des préparations qu'il aurait fait lui-même et qu'il congèlerait lui-même. Donc minimum de produits qui ont été déjà travaillés. Il essaye de faire le maximum lui-même avec une carte qui est vraiment avec des produits respectés, des produits de saison, des produits locaux au maximum qu'il peut. Et puis bien entendu une part belle forcément aux pièces de boucher, comme boucher, charcutier, traiteur, forcément, et qu'il adore les viandes d'exception, les viandes maturées, et ainsi de suite. Il nous gratifie de charcuteries faites maison, qui sont vraiment assez à tomber par terre, et puis de viandes vraiment très sympathiques. Pour autant, comme nous accueillons tout le monde et que nous sommes familiales, il y a toujours des propositions autres correspondant aux besoins des personnes, qu'elles soient, je ne sais pas, intolérantes au lactose ou qu'elles soient plutôt végétariennes ou végétaliennes et ainsi de suite. On trouve toujours quelque chose pour une belle proposition pour satisfaire tous les palais.
D'accord. À l'image du lieu, la carte se veut aussi très modulaire, hein, c'est bien cela. On retient également donc le mercredi au dimanche pour se restaurer, ce sont les jours visés. Juste à côté du restaurant, la boutique, une boutique bien achalandée qui semble compter de nombreuses références d'art en différents types de présentations, Mathieu ?
Oui, effectivement, la boutique a été montée avec Jessica, notre chef de boutique. On lui avait demandé dès le départ, en termes de cahier des charges, de nous offrir une boutique qui soit à la fois de l'art, de la décoration, mais aussi beaucoup de pop culture, évidemment, qui soit une boutique un petit peu chasse au trésor. C'est-à-dire que notre envie, c'était que quand on rentre dans la boutique, on ait l'impression qu'on va dénicher une pépite quelque part, qu'on va trouver le petit article ou la référence, l'objet, le livre, auquel on n'aurait pas forcément pensé et qui est celui qui nous correspond, celui qui nous intéresse ou au contraire, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, mais qui nous plaît. La réussite pour nous, elle est complète. On a une boutique qui offre effectivement toute une gamme qui va du livre à la peluche et en passant par l'objet pour la cuisine et jusqu'à l'objet d'art. On a une sélection d'affiches vraiment intéressante. On travaille avec plusieurs fournisseurs, très grands fournisseurs d'affiches, mais notamment, une petite focale dessus, on travaille avec Postera, qui est un jeune designer grenoblois qui nous a fait quelques affiches du Vercors en exclusivité dans un style d'affiches un petit peu ancienne. On travaille avec la galerie Sakura de Paris qui nous fait des affiches qui mêlent justement les arts et la pop culture et qui sont vraiment très originales. Et c'est vraiment une petite exclusivité qu'on a non seulement au niveau local, mais je pense même au plan régional. Donc on a comme ça quelques petites trouvailles dont on est assez fiers et assez contents. Donc on a également souhaité avoir une dimension dans cette boutique. On a un petit coin qu'on vous laisse découvrir, qui est un petit peu immersif, où on décale un petit peu avec des meubles un petit peu détonnants par rapport au reste du bâtiment. Voilà, on a essayé de créer de la surprise, de créer quelque chose où on se sente bien, où chacun va, on l'espère, trouver ce qu'il n'aurait pas imaginé découvrir.
Alors, je ne vais pas vendre la mèche, mais effectivement, il y a un espace qui semble avoir été confectionné pour donner un petit côté... un petit peu domestique peut-être, bon, comme si un peu on était chez soi. Et puis son accueil aussi assez singulier, hein, avec toutes ces bobines. Hein, c'est des bobines qui font des séries, comme ça, des rangées très multicolores. C'est presque une œuvre d'art à part entière finalement ça.
Alors notre comptoir, oui, on en est assez content, même fier je dirais, parce que c'est presque une œuvre d'art effectivement. Il a été dessiné par Sarah Degouy, qui est une artiste et designer lyonnaise. Pour le coup, là, c'est pas très loin, mais c'est un petit peu plus loin. Elle s'est inspirée des bobines. Effectivement, on est dans une ancienne usine de tissage et c'était la moindre des choses que de rappeler que ça a été une usine de tissage pendant plus d'un siècle. Et ce qui nous a beaucoup plu dans sa proposition, c'est à la fois ce côté traditionnel du tissage et en même temps le côté assez moderne, puisque ça fait penser à des pixels d'un écran et avec des couleurs qui correspondent aux différentes activités. Vous allez être accueilli par du rouge au niveau de la billetterie, des expositions. On bascule sur du jaune quand on va vers la boutique, du bleu quand on va vers le bar et du vert quand on va vers le restaurant. Mais en même temps, toutes ces couleurs sont imbriquées parce que notre souhait dès le départ, c'était de se dire notre équipe qui est derrière ce comptoir et aussi de l'autre côté du comptoir, elle est entièrement là pour accueillir les gens et pour partager et être un peu dans une forme de polyvalence aussi et partager avec tout le monde tout ce qui se fait sur ce site. Donc on est vraiment très très content par rapport à ça.
Sans trop s'attarder sur les aspects administratifs, préciser peut-être le statut juridique, hein, et puis l'équipe qui compose, notamment l'équipe dirigeante, qui compose l'Arsolite. Mathieu ?
Alors l'Arsolite, c'est entièrement privé. Pour le coup, il n'y a pas eu du tout de financement public sur le site. Et effectivement, nous sommes constitués sous forme d'une SAS, la SAS l'Arsolite tout simplement, dirigée par Christian et Martine Morin, bien connus dans le Royan. Jean-Patrick et moi-même en sommes également associés, ainsi que Jérôme Carballo, que tout le monde connaît à la base comme boucher-traiteur et qui est devenu le restaurateur, le chef cuisinier du restaurant et qui nous prépare tous les bons petits plats depuis un mois. Juste un petit mot complémentaire, sur la partie culturelle, l'Arsolite est soutenu également par le fonds de dotation Martine et Christian Morin qui vient soutenir vraiment toute la programmation culturelle qu'on met en place sur le site.
C'est l'idée d'un site familial culturel accessible à tous et qui veut provoquer la rencontre. Donc la rencontre à travers des expositions. On est beaucoup basé sur les arts visuels. D'ailleurs, on les retrouve dans la boutique Arts et Décorations. Il y a 1600 références et parmi ces références, il y a un bon nombre de visuels qui peuvent être achetés sous forme de cartes postales, sous forme d'affiches, d'estampes, de lithographies, de linogravures et ainsi de suite. Et donc ces arts visuels, ben, ça va être des peintures, des photographies, ça va être des dessins, ça va être des mappings numériques, ça va être toutes sortes de productions artistiques qu'on va pouvoir exposer, qu'elles soient en 2D ou en 3D ou qu'elles soient en projection. Dans nos salles d'exposition. Et on essaye toujours de faire cette rencontre, ce mix entre les arts et la culture populaire, pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts, pour que ce soit très accessible et pour qu'un petit enfant puisse dire à ses grands-parents bah, « Regarde, ça c'est telle référence » et que les parents ou les grands-parents ou les amis puissent dire bah, « Ah là, c'est une référence artistique bien connue ou peu connue et en parle à ses collègues ou à ses enfants ou à ses petits-enfants. » Tout l'enjeu pour nous, ça serait que ça soit c'est de faire de ce site un lieu vivant de culture et accessible vraiment à tout le monde. Et c'est vrai que la lumière, l'acoustique, tout ça, ça aide à se sentir bien dans ce site, à se sentir accueilli et puis et pouvoir découvrir des choses. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens repartent en ayant découvert quelques petites choses et surtout avec pas mal de bonheur, quoi.
Oui, alors mention pour l'acoustique aussi, hein, on évoque la lumière, très belle lumière naturelle. L'acoustique, c'est très important puisque ça ne se voit pas, mais ça se vit. Et ici, elle a été bien soignée. quand on évoque les objectifs aussi de l'exposition, c'est un peu la croisée des arts, la croisée des générations et faire aussi un peu des passerelles finalement entre ce qui existe de manière plus contemporaine pour l'art à des, peut-être des mouvements plus anciens, plus insoupçonnés pour notamment les jeunes générations.
Alors oui, c'est vrai que on a vraiment plein de médiums et on a plein de techniques et on peut avoir dans l'exposition, par exemple, une personne, une artiste comme Nina Kovacheva, qui est une artiste contemporaine qui utilise vraiment les médiums contemporains, mais va aussi puiser dans des médiums plus anciens tels que la photographie, le dessin, et va utiliser des sujets autour de l'enfance et ainsi de suite. Vous avez des artistes qui sont beaucoup plus pop culture, type Mandrill, qui utilise des tonnes de références, mais qui a aussi un fond artistique classique et qui va aller chercher des références ethnographiques, ethnologiques ou des références artistiques des quatre coins du monde et des quatre coins du temps, on va dire, hein, puisque d'aujourd'hui comme d'il y a très longtemps. Il va utiliser des références artistiques telles que le Capriccio, des choses un peu pointues pour mettre en scène des éléments très potaches ou très très grand public, très entertainment, culture de masse, ce qu'on appelle. C'est tous ces mix-là qui sont donnés à voir dans l'exposition et qu'on trouve un peu jubilatoire parce que c'est vraiment... on peut passer d'un héros qui est un grand artiste qui a eu une rétrospective énorme au MAC il y a quelques années et qui est dans l'expo et qui fait justement ces mix entre super-héros, par exemple, et bande dessinée espagnole ou grands artistes d'art type... Fernand Léger fait le mix entre des comics américains, de la bande dessinée par exemple espagnole et des grands artistes type Fernand Léger. Et on va avoir des artistes beaucoup plus nouvelle génération, ancrés dans le numérique et ainsi de suite, et qui s'amusent à utiliser des enluminures moyenâgeuses, des techniques moyenâgeuses, du vieux français retravaillé au goût du jour et faire découvrir à tout le monde des références pop culture à travers ces faux parchemins, ces fausses enluminures.
Un des points qu'on a envie de développer dans l'exposition, c'est dans cette idée d'être sur un public le plus large et familial possible, c'est aussi cette dimension un petit peu intergénérationnelle, c'est-à-dire que les enfants vont avoir des références, souvent ancrées dans la pop culture, comme les dessins animés, les jeux vidéo, ou des films, des grands films qu'on appelle des blockbusters, et ils vont pouvoir les reconnaître dans l'exposition, et à l'inverse, les parents ou les grands-parents vont peut-être avoir des références plus classiques, comme Picasso, ou Fernand Léger, ou d'autres, et ils vont pouvoir les reconnaître aussi. Et c'est cette idée d'un échange qu'on a envie de promouvoir à travers une exposition comme celle-là, c'est que ça parle aussi bien aux grands comme aux petits, et que ça permet de créer du dialogue, et un dialogue culturel au sein des familles, ou entre amis, etc.
On peut dire qu'il y a donc une exposition, c'est ça, une exposition principale. Comment fonctionnent donc vos propositions d'exposition ?
Oui, on a en fait l'idée du site, c'est d'avoir une grosse exposition par an dans la salle principale qui fait 500 mètres carrés à peu près. Donc une expo qui serait ouverte entre... Alors là, on a ouvert le 10 mai, mais normalement, ça serait plutôt entre avril et fin septembre, fin octobre. Là, celle-là fermera ses portes le 31 octobre. Et après le démontage de cette expo, en novembre, décembre, on va essayer d'avoir d'autres propositions. On va essayer d'utiliser la grande salle comme une sorte de laboratoire, de tester des propositions, des formules. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être un concert, un spectacle de cirque, une autre exposition immersive, numérique, ou pas du tout numérique. On essaiera d'être ouvert à des propositions et essayer de surprendre un petit peu, puisqu'on est art solide, soyons insolites. Sinon, les deux autres salles d'exposition, qui sont en accès libre, gratuites, elles vont essayer d'avoir un rythme un peu plus soutenu, un peu plus rapide. Alors, pas cette première année où il faut le temps de se mettre en chauffe, mais l'idée, c'est d'avoir 2-3 propositions par an, peut-être 4, dans ces salles que les expos tournent.
Je pense qu'on peut dire un mot aussi sur notre intention, c'est de mettre en place une programmation culturelle et qui aille bien au-delà des expositions. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des ateliers à destination des enfants ou des ateliers parents-enfants en lien avec les expositions. Donc on va faire des propositions dès cet été. Jean-Patrick a évoqué une rencontre avec une artiste et c'est aussi un format qu'on a envie de développer. Il n'y a pas très longtemps, dans la boutique, on a accueilli une dédicace de M. Houot qui avait fait une BD sur Roche Chinard. On va bientôt programmer une soirée soit musicale, soit quiz, on ne sait pas encore, au niveau du bar. On a aussi cette envie-là, c'est-à-dire de mettre en place toute une programmation culturelle, et on bénéficie en plus en été d'un amphithéâtre de verdure dans notre parc, et on souhaite pouvoir mettre en place à terme peut-être des petits concerts, peut-être des petits spectacles, des projections. On est encore en réflexion, mais on va très très certainement mettre des choses en place. Donc ce sera annoncé sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web au fur et à mesure. Et puis sur le site même, évidemment, on l'affichera.
On peut commencer à s'immerger dans les différentes propositions de ce complexe L'Arsolite.
Eh bien allez, allons-y.
Et bien là, on vient juste de pénétrer dans la grande salle. Déjà, le petit patio qui mène à la grande salle avec des éléments qui vont peut-être donner quelques significations pour la suite de l'exposition. Alors donc, c'est la grande salle où se déroule l'exposition thématique à l'année. C'est bien ça, Jean-Patrick ?
C'est tout à fait ça. Nous rentrons dans Shaker. Nous sommes dans la toute petite première salle avant de rentrer dans la grande salle, justement, ce qu'on appelle nous l'introduction à Shaker, l'exposition qui a lieu entre le 10 mai et le 31 octobre et qui joue la rencontre. Donc on dit une dose d'art, un trait de pop culture. Pourquoi Shaker ? Parce qu'en fait, tous les artistes qui ont été sélectionnés, qui ont été repérés, qui ont été sollicités, sont des artistes qui sont soit, et vous en avez l'illustration dans cet espace, avec des éléments 2D ou voire des figurines 3D. Les figurines expriment la pop culture. Vous verrez que ce sont des art toys, des petites, ou des Playmobil ou autres, qui montrent la pop culture. Des éléments figuratifs qui montrent les grands peintres ou qui soient contemporains comme Frida Kahlo, il y a Van Gogh, il y a La jeune fille à la perle, il y a Yves Klein, il y a Jackson Pollock. Vous voyez qu'en fait, tous ces éléments sont réunis dans un shaker. Le shaker est secoué et à la fin, on obtient des œuvres totalement nouvelles qui mixent les approches entre l'art classique contemporain ou moderne, et la pop culture. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver chez tous les artistes présents dans Shaker, dans la grande exposition. Il y en a 10. Un 11e qui fait la conclusion et qui donne sa vision de la conclusion. Mais les 10 premiers qui forment le corps de l'exposition sont soit issus de la pop culture et utilisent des techniques ou des références des beaux-arts ou des arts contemporains ou modernes, soit des artistes issus de la pop culture, des graphistes, et ainsi de suite, qui, eux, utilisent des techniques ou des références beaux-arts. Ou l'inversement, c'est des personnes issues des beaux-arts et qui utilisent des références pop et des techniques ou des représentations, des images issues de la pop culture.
Une sorte de cheminement, Mathieu ?
Quand vous arrivez dans Shaker, la première chose évidemment que vous voyez, c'est la dimension de la salle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le coin, avec sa lumière encore une fois, qui est naturelle et super agréable. Vous allez être accueilli par une médiatrice, parce que le Shaker, un Shaker c'est aussi un objet de bar. On a eu envie de faire une exposition qui soit une exposition un peu lounge. On parle des fois de bar lounge, nous on est un peu dans une exposition lounge. Donc vous avez une médiatrice qui est derrière un comptoir et qui vous accueille, on vous laisse découvrir un petit peu les surprises qu'elle vous propose. Et l'idée c'est que depuis ce comptoir, vous allez avoir accès à tous les univers des artistes qui sont présents dans l'exposition. On est sur le principe qu'on appelle un panoptique, c'est-à-dire que depuis le centre, on voit les dix artistes et on peut choisir soit d'aller les faire un par un, soit de déambuler d'artiste en artiste, un petit peu comme on veut. Le parcours est libre, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens. Il y a des supports qui permettent aux gens de découvrir les artistes. Il y a des panneaux qui expliquent évidemment la démarche de chaque artiste. Ce qu'on appelle, nous, ses ingrédients. Lui, après, il fait sa recette, il fait ses mélanges, il fait son shaker à lui et il obtient ce qu'il nous montre, ce qu'il nous donne à voir. Mais on lui montre un petit peu ses ingrédients, on explique un petit peu sa démarche. Et puis, il y a également des supports qui permettent d'aller un petit peu plus loin, pour ceux qui le veulent. Il y a des livrets d'exposition qui permettent d'aller un petit peu plus loin, de comprendre. Et pourquoi pas, au sein des livrets, il y a des parcours thématiques qui sont proposés. Et là, on peut effectivement choisir de faire un parcours thématique. Par exemple, on peut faire un parcours autour des héros de comics américains et retrouver ces héros de comics chez différents artistes, Nina Kovacheva, Marabou. Ben voilà, ce sont des artistes qui ont travaillé avec cette figure des héros américains, les Batman, les Joker, etc. Et on les retrouve dans leurs œuvres. Donc, on va créer créer un parcours autour de ça et on va pouvoir explorer un petit peu l'expo sous cette forme-là.
Comme c'est une exposition bar, lounge, shaker et donc une exposition lounge, on a aussi pour le coup une bande sonore qu'on n'entend pas là parce qu'on l'a coupée pour le micro, mais il y a toute une bande son qui a été choisie par les médiatrices en lien avec des sons issus du classique et issus de la pop culture. Et donc toute une rencontre, on essaye de le faire vivre sous toutes les dimensions possibles. Et dans l'exposition, vous allez voir plein de médiums différents, même de la sculpture, même des objets un peu sculptés. C'est des créations originales d'un artiste. Vous allez avoir de la photographie, vous allez avoir du dessin, vous allez avoir de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, des imprints, ce qu'on appelle des œuvres numériques faites sur Photoshop ou autre solution, et qui sont après imprimées soit sur papier photographique, soit sur papier d'art ou tapisserie d'art, et ainsi de suite, ou carrément sur papier canvas, c'est-à-dire pas papier, mais toile d'artiste. On a vraiment beaucoup de choses à voir, et notamment un mapping qu'on vous laisse découvrir, qui a demandé une semaine de travail et de dessin à l'artiste qui est venu en résidence, qui s'appelle Mandril, qui est suisse, et qui met en scène la pop culture d'une manière un peu insolite et peu banale, et qui s'en amuse, qui joue avec les codes, et qui est assez extraordinaire.
Il y a une dimension qui est assez impressionnante dans cette salle, hein, vous le précisez, 500 mètres carrés, puis une hauteur sous plafond également qui est tout aussi impressionnante.
On est à 8,50 m au plus haut.
Avec toujours cet éclairage, comme vous le disiez, Mathieu, naturel. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà pour donc la grande salle d'exposition et Shaker, hein, c'est donc la proposition du moment. Eh bien, nous voilà dans une salle d'exposition un petit peu plus petite, mais ceci dit, qui aussi contient un certain nombre d'éléments. Peut-être aussi rappeler la construction du bâtiment, ce que cela représentait avant, cette friche industrielle, et tout doucement, de fil en aiguille, ce centre d'art, l'art solide, en photo, avec bien, peut-être derrière l'objectif, quelqu'un qui a su prendre au plus près un peu les attentions de toutes celles et ceux, hein, qui ont fait ce bâtiment. Donc, expo photo, Mathieu.
Oui, une expo photo. Alors, on se situe dans une maison, on l'appelle la résidence. Elle est bordée par un canal sur son flanc ouest. Cette maison est peut-être plus ancienne encore que l'usine. On pense qu'elle date peut-être du XVIIIe siècle. Et en tout cas, elle fait partie de l'activité du site depuis très longtemps. Elle a été atelier aussi. Elle a été connue pour être la résidence du dernier propriétaire du site également. Et on y a développé deux espaces d'exposition. On se trouve dans le premier, où on accueille une exposition de Fabian D'Acosta, qui est un photographe assez connu des gens du Royan, puisqu'il est basé à Rochinard. Il a beaucoup photographié le Vercors. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup la photographie dite humaniste. Et il s'est intéressé justement aux gestes ouvriers sur le chantier. On lui avait demandé de documenter ce chantier, parce qu'on trouve que c'est important et intéressant de garder des traces de tout ce qui s'est fait, parce que ce n'est pas souvent, hein, évidemment, que ce genre de chantier est conduit. Et donc, il nous a fait, parmi les quelques milliers de photos qu'il avait réalisées, il a fait une sélection des photos qui, pour lui, mettaient justement en valeur ces ouvriers, les hommes, les femmes, qui ont contribué à l'élaboration de ce chantier, dans tout leur savoir-faire, dans les différents corps de métier. On a des maçons, on a des charpentiers, on a des menuisiers, des gens qui font des sols, des gens qui font de la soudure, qui font du chauffage, de l'électricité. On a vraiment tous les corps de métier qui sont représentés. Et à travers des photographies que nous, on a trouvées assez magnifiques du bâtiment, et on le voit. C'est un petit peu chronologique, on le voit évoluer ce bâtiment au fil des saisons, au fil des années. Ça a pris quand même 3 ans pour aboutir. Et on voit aussi le bâtiment tel qu'il était à l'origine et on le découvre donc tel qu'il est aujourd'hui. On a trouvé vraiment ça intéressant. Il s'appuie donc sur ses photographies. Il a fait des vues avec un drone. Il a fait quelques vidéos également. Il y a un petit film qui est présenté dans la salle et qui retrace aussi un petit peu l'histoire de ce chantier. Et il y a également à l'extérieur des grandes bâches qui sont là aussi des photographies représentant le chantier dans son évolution. L'entrée est libre et on invite vraiment les uns et les autres à venir découvrir cette expo pour voir un petit peu toute l'ampleur et toutes les mains qui ont œuvré pour en faire le bâtiment et le site dont on dispose aujourd'hui.
Voilà, bel hommage. Hein. On n'est pas habitué à voir dans des bâtiments neufs, finalement, toutes celles et ceux qui ont œuvré et dans l'ombre, hein, on peut le dire, à la construction de celui-ci. Là, ça rend vraiment un hommage aux ouvriers qui ont bien transpiré sur le chantier depuis le début à la fin. C'est un chantier d'ampleur.
Alors c'est un chantier d'ampleur. Il a démarré par... Il y a eu un petit peu de démolition au tout début. Un des grands moments du chantier, c'est qu'il a fallu enlever à l'intérieur des quatre murs de l'usine. Il y avait des sortes de murets en pierre remplis de terre. Il a fallu entièrement vider le site pour pouvoir lui offrir deux niveaux. À l'origine, l'usine n'avait qu'un niveau et puis des espèces de couloirs et de combles. Là, maintenant, on a deux vrais niveaux et c'est ce qui permet d'avoir justement la grande salle dont on parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a ces deux niveaux. Il y a au niveau des murs, ils ont été faits dans ce qu'on appelle du béton précontraint. Donc c'était assez impressionnant de voir des grands murs de béton préfabriqués qui ont été assemblés un petit peu comme un mécano ou un Lego. Ça a vraiment été assemblé avec une grue qui est venue les déposer pièce par pièce. Et on a vu comme ça se dessiner petit à petit. On a des vues par drone d'ailleurs qui sont assez impressionnantes. On a vu se dessiner les plans du site progressivement. Et ensuite, on a eu ça c'était la partie Lego, je dirais, la partie mécano, ça a été ensuite toute l'architecture de métal. On a un grand panoramique dans la salle qui permet de découvrir toute la complexité de cette architecture métallique. Il y a un travail de charpentier métallique assez impressionnant avec une société locale, justement. On est très, très content du résultat. Il faut imaginer qu'il a fallu consolider les murs, quand même, qui sont très anciens. On est dans une zone sismique. Il a fallu aussi, avec cette charpente métallique, agrafer les murs. C'est le terme qu'ont employé les architectes. C'est-à-dire que les murs sont accrochés à la charpente métallique. Ils soutiennent le toit, mais ils soutiennent aussi les murs. Donc, c'est vraiment une sorte de squelette qu'on a créé à l'intérieur, à la fois de béton et d'acier, et qui permet de tout tenir. Et le bâtiment, il avait peut-être un peu plus de 120 ans, mais là, il est reparti pour au moins une bonne centaine d'années, je crois.
Découvrir, effectivement, toutes ces photos avec quelques textes aussi qui sont associés, qui est plus donc sur un aspect littéraire des hommes et des chèdes. Donc, l'exposition à découvrir dans la deuxième salle du lieu L'Arsolite. Ce n'est pas terminé, hein. Troisième salle, hein, beaucoup plus immersive.
C'est tout à fait ça. On avait deux salles. Il y en a une qui est dans son aspect assez classique et qu'elle accueille des hommes et des chaînes. Et il y en a une deuxième qui est beaucoup plus anachronique dans sa structuration et qui nous a donné envie de tester des œuvres ou des installations ou une rencontre avec de l'art qu'on dit immersif, où le spectateur devient un petit peu acteur, fait partie de l'œuvre également, il est immergé dans l'œuvre. Donc là, on a une proposition d'une artiste des Pays de Loire, Isabelle Dehaye, qui connaît déjà bien la Drôme, puisque en fait, on est dans son parcours artistique à la suite d'une résidence un peu longue pendant 3 ans qu'elle a effectuée au Cube à la Tour Valory. On est dans une poursuite de son travail et une recherche un peu continuelle, perpétuelle, où elle va gratter encore plus loin et vous verrez que c'est très poétique, c'est lié aux plantes, à la végétation d'ici et d'ailleurs, et qu'elle retravaille au niveau numérique, au niveau du pixel. J'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est vraiment une exposition à vivre.
Ce bâtiment qui aussi abrite donc une résidence d'artistes qui est amenée à cerner plusieurs types d'art, ou c'est en particulier quelque chose autour de l'art visuel ?
La résidence est multifonction également, hein, c'est le maître mot chez nous. Elle peut servir dans le parcours d'un artiste qui a besoin d'avoir un lieu. Elle peut même carrément, pourquoi pas, être louée. Mais sinon, dans sa première fonction, elle nous sert à nous sélectionner des artistes, solliciter des artistes, faire des commandes à des artistes pour qu'ils viennent en résidence et créent des œuvres pour les expositions. Donc ça peut être des artistes d'art visuel, bien entendu, mais ça peut être aussi d'autres artistes, ça peut vraiment être très éclectique. Et ce qu'on aimerait, c'est arriver à provoquer des rencontres. C'est qu'à terme, pouvoir proposer à des artistes ou solliciter des artistes ou faire venir des artistes qui soient issus de la pop culture ou qui soient issus des arts et qui puissent se rencontrer. Avec aucune obligation de résultat, mais une obligation, nous, de moyens, c'est-à-dire leur offrir des conditions d'hébergement et de travail qui soient sympathiques. Je pense qu'on n'est pas trop mal avec la 200 mètres carrés de résidence, 4 chambres, des espaces de travail commun, un espace salon, salle à manger, cuisine commune, et puis tout ce qu'il faut en termes de commodité pour que ces artistes puissent être bien et puissent se rencontrer à travers leur mission respective, leur trajectoire artistique respective, et puis peut-être qu'il se passerait des choses, quoi. Donc ça, c'est notre but vraiment ultime. Entre-temps, c'est vrai que pour l'instant, on a eu plusieurs résidences d'artistes québécois en l'été passé. Isabelle Dehaene, donc la troisième expo qu'on vous laisse découvrir, on ne va pas trop vous la défricher, il faut venir la vivre parce qu'elle est très immersive. On a eu une résidence de Mandril, dont je parlais tout à l'heure, dans Shaker, qui est venu faire une semaine de résidence pour son dessin et son mapping vidéo. Pour l'instant, c'est plutôt des résidences liées à des commandes. Demain, ça sera peut-être des artistes qui disent « j'ai vraiment besoin d'un lieu pour pouvoir produire ce que j'ai à faire ». Et là, ça peut être de l'art vivant, ça peut être n'importe quoi. On n'a pas les espaces pour accueillir une troupe de théâtre ou une troupe, un ballet, ou ainsi, puisque notre salle d'expo n'est peut-être pas réellement conçue pour ce genre de prestations ou de spectacles ou autre. Mais par contre, pour quelqu'un qui vient concevoir, penser, prévoir des choses, les structurer, qui est dans la réflexion, qui est dans du temps long, de la maturation et ainsi de suite, même si de quelques médiums qu'il fasse son art, il devrait trouver un intérêt à venir en résidence.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Patrick et Mathieu.
Un petit mot pour les auditeurs, c'est de dire que le site est ouvert du mercredi au dimanche et tout particulièrement le samedi 17 juin après-midi, on est sur une après-midi un peu inaugurale. Le site sera fermé jusqu'à 14h, mais à partir de 14h, le site sera pleinement ouvert et il y aura également des possibilités de visite, de justement peut-être donner un aperçu des différents lieux. Donc si les auditeurs veulent en connaître un petit peu plus, qu'ils n'hésitent pas à venir, notamment le samedi 17 après-midi, on aura quelques surprises à leur proposer. Et, on espère voir du monde et notamment les habitants du Royan venir découvrir ce nouveau projet qu'on leur offre et qu'on espère ils adopteront.
Merci beaucoup à vous deux et puis à très bientôt à l'Art Solitaire.